Radio Prague, les informations. Bonjour, le gouvernement a donné son aval à la restitution des biens de l'État aux églises. Relation tchéco-ukrainienne, l'octroi de l'asile politique au mari de Yulia Tymoshenko n'est pas un problème selon Kiev. Et puis enfin, qualité de l'air, le gouvernement a approuvé un rapport environnemental 2010 très négatif. La coalition gouvernementale a finalement approuvé à l'unanimité, mercredi matin, le projet de restitution des biens confisqués par l'État sous le régime communiste aux églises du pays. Les affaires publiques, le plus petit des trois partis de la coalition, d'abord très divisé sur la question de soutenir ou non le projet, ont cessé de faire obstruction après plusieurs semaines de tergiversations qui menaçaient l'intégrité du cabinet. Les affaires publiques réclamaient en effet de différer le versement des compensations financières aux églises, et ce d'au moins un an ou jusqu'à un retour de la croissance économique dans le pays. Plus de précisions sur le sujet dans quelques instants dans les faits et événements. L'octroi de l'asile politique à Oleksandr Tymoshenko, mari de l'ancien premier ministre ukrainien Yulia Tymoshenko, actuellement emprisonnée, n'altérera pas les relations tchéco-ukrainiennes. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi une conseillère du président ukrainien Viktor Yanukovych. Celle-ci a déclaré que la décision du gouvernement tchèque ne représentait pas pour Kiev un problème international et que les relations entre les deux pays pouvaient rester bonnes et amicales. Oleksandr Tymoshenko a obtenu, rappelons-le, l'asile en fin de semaine dernière. Son épouse a été condamnée l'année dernière en Ukraine à une peine de 7 ans ferme d'emprisonnement. Cette condamnation a été vivement critiquée dans de nombreux pays européens et notamment en République tchèque, qui estimaient qu'il s'agissait là d'un procès politique. Le gouvernement a approuvé ce mercredi le rapport environnemental portant sur 2010, selon lequel la qualité de l'air en République tchèque s'est considérablement détériorée. Près de 50% de la population a en effet été exposée à une concentration supérieure au seuil de pollution aux poussières, contre seulement 18% en 2009. Dans la région industrielle de Moravie du Nord-Silésie et dans les environs de Kladno, en Bohême centrale, la population a même été exposée à cette pollution plus de 100 jours dans l'année. Par ailleurs, dans les grandes agglomérations, la concentration d'hydrocarbures aromatiques polycycliques a également grandement augmenté. Le Premier ministre Petr Nečas a déclaré que ces données étaient inquiétantes et que le gouvernement entendait porter une attention accrue à ce dossier. Le gouvernement, toujours lui, devrait débattre au printemps prochain du projet de rebaptiser l'aéroport de Prague-Ruzyně, plus grand aéroport en République tchèque, Václav Havel Prague International Airport, suite au décès de l'ancien président le 18 décembre dernier. C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi le Premier ministre Petr Nečas à l'issue du Conseil des ministres. Dans la matinée, une lettre demandant à ce que l'aéroport porte le nom de Václav Havel et signée par plus de 80 000 personnes lui a été remise par le responsable de l'initiative. Le chef du gouvernement a toutefois rappelé que le nom de Václav Havel n'était pas de la propriété de l'État et qu'il avait besoin pour cela de la de sa famille. 480 000 touristes étrangers ont visité une brasserie lors de leur séjour en République tchèque l'année dernière. Il s'agit d'une augmentation de plus de 10% par rapport à 2009. Les chiffres ont été communiqués ce mercredi par un responsable de la société MAG Consulting. La brasserie de Plzeň, Plzeňský Prazdroj, qui produit la plus célèbre des bières brassées en République tchèque, a été la plus visitée avec plus de 250 000 touristes en comptant les Tchèques. Les Allemands, essentiellement les Russes, sont toutefois les principaux amateurs de ces visites. Depuis ce mercredi et jusqu'au 15 janvier prochain se tient à Prague la première édition du festival du film iranien. Les spectateurs du cinéma Svetozor pourront voir la création actuelle des cinéastes iraniens. Ces derniers temps, le cinéma iranien a été primé à plusieurs festivals internationaux, dont Berlin, Venise, Moscou et Cannes. Au programme du festival figure entre autres le plus grand succès récent du cinéma iranien, Une séparation, du réalisateur Asghar Farhadi, notamment Ours d'or à Berlin l'année dernière. Le film sera ensuite distribué en République tchèque. On passe au sport et au tennis. Petra Kvitova s'est rapprochée encore un peu plus de la place de numéro 1 mondial ce mercredi en battant la Slovaque Daniela Antuchova en 2-7 en quart de finale de l'Open de Sydney. Si la joueuse tchèque, actuelle deuxième et meilleure joueuse mondiale, venait à remporter le tournoi, elle serait assurée de succéder à la Danoise Caroline Wozniacki en tête du classement établi par la WTA, la Fédération internationale du tennis féminin. On termine avec un mot de météo comme mercredi. C'est un temps variable qui règne sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Pravoslaves. Quelques chutes de neige sont attendues au-dessus de 600 mètres. Les températures en pleine restent assez nettement supérieures aux normales saisonnières et varient entre 5 et 8 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée tout de suite par Vassar Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Le cabinet Petr Nečas a donné son aval au règlement des rapports de propriété entre l'État et les églises. L'Académie de musique franco-tchèque de Telč, en difficulté financière, tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite du programme sera réservée à la rubrique « Chapitre de l'histoire ». Dans son cadre, Paul Bauer vous présentera un entretien avec l'historien slovaque Michal Kšiňan, consacré à un des principaux héros nationaux de la Première République tchécoslovaque, Milan Rastislav Štefánik. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Le gouvernement tchèque a donné son aval au projet de loi sur le règlement des rapports de propriété entre l'État et les églises. Cette loi, rejetée par l'opposition et la majorité de la population tchèque, a semé la discorde également au sein de la coalition gouvernementale. Ce n'est pas la première fois que le parti Affaires publiques menace l'existence de la coalition gouvernementale qu'il forme avec le Parti civique démocrate ODS et le parti Top 09. Les commentateurs en viennent à se demander s'il s'agissait là d'un différend grave ou d'une nouvelle tempête dans un verre d'eau. Le projet de loi en question est appelé en général inexactement « loi sur la restitution des biens des églises ». Il ne s'agit cependant pas que de la restitution des biens confisqués par le régime communiste, mais aussi des compensations pour les biens des églises qui ne peuvent être restitués. D'après le projet, qui semblait d'abord acceptable à toutes les parties concernées, l'État restituerait aux églises et à différents mouvements religieux 56% de leurs biens et leur verserait progressivement aussi une compensation de 59 milliards de couronnes, quelque 2,36 milliards d'euros. Cependant, les églises ne recevront pas immédiatement cette somme, mais les versements s'échelonneront sur une période de 30 ans. Récemment, le parti Affaires publiques a retiré son soutien inconditionnel à ce projet, qu'il s'était pourtant engagé à soutenir dans l'accord de coalition, et a demandé un supplément d'informations sur son financement. Il a pris l'initiative de chercher lui-même une solution et a proposé la fusion des ministères de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour réunir les moyens nécessaires. L'initiative s'est cependant heurtée au refus ferme des deux autres membres de la coalition, le Parti civique démocrate et le Parti Top 09. Le Premier ministre Petr Nečas est allé jusqu'à menacer Affaires publiques de relever de leurs fonctions les ministres qui représentent ce parti dans le cabinet, mesure qui aboutirait inévitablement à la fin de la coalition gouvernementale. Face à cette menace, les députés d'Affaires publiques avaient fini par autoriser les ministres de leur parti à voter pour le projet de loi controversé, ce qui a été fait dans la matinée de ce mercredi. Le président d'Affaires publiques, Radek Jón, a expliqué ce tournant par les garanties que le parti aurait obtenues de la part du Premier ministre.
Nous sommes mis d'accord avec le Premier ministre que les compensations aux églises seront financées par des mesures d'économie budgétaire et la réduction de la bureaucratie. Il ne s'agira donc pas de coupes dans les budgets de divers ministères ou de coupes dans les prestations sociales. Le citoyen ne sera pas touché par ce règlement. L'argent sera trouvé ailleurs.
D'après le commentateur du journal Hospodářské noviny, Petr Honzejk, nous assistons ici à l'aspect théâtral de la politique. D'après lui, Affaires publiques ne peut tout simplement pas se permettre de désagréger la coalition gouvernementale, car l'existence même de ce parti en dépend.
En ce moment, la cote de popularité d'Affaires publiques n'atteint que 2%. La chute du gouvernement serait probablement suivie par une période transitoire et puis par des élections anticipées. Dans une telle situation, l'existence d'Affaires publiques en tant que projet politique serait définitivement finie.
Et Peter Hanzig de constater qu'il ne reste donc plus à affaires publiques que de continuer à jouer le rôle d'opposition factice au sein de la coalition gouvernementale pour se rendre visible et pour améliorer son image politique. L'Académie de musique franco-tchèque de Telč a une longue histoire derrière elle. Créée en 1995, elle propose le temps d'un stage d'été des cours magistraux d'interprétation et de musique de chambre à des élèves des conservatoires et des grandes écoles de musique française et tchèque, mais aussi européenne. Tous sont suivis par de grands professeurs français et tchèques. Mais la 18e édition de l'Académie est menacée faute de financement suffisant. Zuzana Šmídová, sa directrice, a expliqué à Anna Kubišta les problèmes auxquels elle faisait face.
Il est vrai que nous nous trouvons dans les difficultés financières, pas seulement cette année, les années précédentes, la crise a commencé et bien sûr elle culmine peut-être cette année et nous sommes en difficulté. Il est vrai que nous vivons des donations et des dotations de l'État et nous avons les dons de nos sponsors, mais ils sont obligés également de diminuer les frais. Et donc c'est également le cas, ce qui se passe dans l'Académie. Nos sponsors ont été obligés de diminuer les frais, quelques sponsors ont été obligés même de partir.
Comment voyez-vous alors l'édition de cette année de l'Académie de musique ?
Alors, on cherche d'autres solutions, d'autres vocations. Je suis partie en Champagne-Ardenne, qui est la région partenaire de la région de Vysočina. Et Telč fait partie de la région de Vysočina et également reçoit une dotation chaque année de cette région. Et donc nous aimerions entamer et élargir la collaboration avec la région de Champagne-Ardenne vis-à-vis de musique. Peut-être on pourra voir la solution là-bas en élargissant la collaboration avec les deux régions.
Et pour les élèves de l'Académie, notamment ceux qui reviennent régulièrement, sa tenue est primordiale. Nombre d'entre eux y reviennent plusieurs années de suite. C'est le cas notamment de Samuel Bricot, flûtiste.
La première fois que j'ai fait l'Académie, c'était donc il y a 3 ans. Je ne me souviens plus très bien comment je l'ai découvert. C'est ma professeure de flûte, Céline Messi, qui m'en avait parlé parce qu'une collègue à elle, donc Catherine Quentin, était prof là-bas. Et après, je l'ai fait évidemment parce que c'était le moins cher. Et moi, je connaissais pas très bien Catherine. Enfin, je connaissais pas du tout Catherine Quentin à part de réputation. Du coup, voilà, c'était à l'étranger. Ça me disait bien de découvrir tout ça.
Alors, visiblement, vous êtes revenu plusieurs fois. Pourquoi ?
Je l'ai fait 3 fois parce qu'avec Catherine Quentin, c'était une rencontre incroyable. Enfin, ça, c'est la première chose. Enfin, au niveau de la musique, de la flûte, c'était vraiment incroyable. Ça m'a fait faire des progrès. Comme rarement j'en ai fait. Après, ce stage-là est vraiment particulier. Moi, j'étais amoureux d'un stage d'enfance que je faisais dans le Lot, avec une ambiance de petit village, de gens qui se connaissent, tout ça, que j'ai jamais retrouvé après dans les gros stages qui font un peu usine. Et là, à Telč, c'était exactement cette ambiance-là, de petit village où tout le monde se connaît, où surtout l'ambiance est extrêmement sympa.
Le fait que cette académie se déroule en République tchèque, dont on dit que c'est un peu une nation de musiciens, est-ce que c'est un apport particulier ou finalement, voilà, vous disiez tout à l'heure que vous aviez plutôt aimé l'ambiance justement de petits stages, non pas de grandes usines, mais disons au niveau de la tradition musicale du pays, est-ce que ça a une influence sur la manière dont se déroule l'académie ?
Un peu, je pense, oui, un peu, parce que déjà les Tchèques jouent vraiment pas pareil que nous, j'ai l'impression. Alors, j'aime pas trop les généralités, mais j'ai l'impression que de manière générale, quand on les entend jouer, moi ça m'avait frappé la première année. J'ai l'impression que tous musicalement, ils sont extrêmement investis, et même si parfois techniquement ou pour des choses vraiment instrumentales, ils peuvent parfois avoir un niveau peut-être un peu moindre, mais musicalement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est vraiment dans l'engagement et d'une puissance. Vraiment, on sent que c'est plus important ce côté-là peut-être que pour nous dans leur enseignement. Et après, moi, il y a des choses qui m'ont super surprise et vachement plu. je ne sais plus du tout à quelle académie, il y a un quatuor à cordes qui a décidé de se mettre sur la place de Telch et de jouer le quatuor américain de Dvorak, juste pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux gens, et ça avait l'air complètement naturel de leur part. Ils l'ont fait toute l'après-midi et tout le monde était super content. Ça, c'est un truc que les Français feraient moins, je pense.
Alors, est-ce que vous allez revenir cette année?
Oui, j'ai très envie. Après, on verra de quoi l'été sera fait, de ce qu'on me proposera et ce qu'il y aura comme concert et tout ça, mais sinon, oui, j'ai très envie, oui.
Rendez-vous dans Culture sans frontières samedi pour mieux découvrir l'Académie de musique franco-tchèque de Telč. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Milan Rastislav Štefánik est sans aucun doute l'un des principaux héros nationaux de la Première République tchécoslovaque et de la Slovaquie après 1993. À la suite d'un tragique accident d'avion en 1919, sa vie s'est brutalement arrêtée alors que la République tchécoslovaque venait d'être créée quelques mois plus tôt. Dans un entretien accordé à Radio Prague, l'historien slovaque Michal Kšiňan revient sur cette figure historique. La première partie de cet entretien que nous vous livrons aujourd'hui est consacrée à son rôle dans la cause tchécoslovaque qui émerge durant la Première Guerre mondiale. Les propos de Michal Kšiňan ont été recueillis par Paul Bauer.
Chapitre de l'histoire. Michal Kšiňan, bonjour. Vous êtes historien à l'Académie des sciences slovaques et au CEFRES à Prague. Vous avez travaillé, vous avez fait une biographie de Štefánik. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage?
Donc, Štefánik, c'est un, voire même le héros national slovaque. Il est né en Slovaquie en 1880, dans le royaume d'Hongrie. Il a fait ses études universitaires à Prague, où il a fait la faculté de lettres, la spécialisation de l'astronomie. Ensuite, juste après la fin de l'université, il est parti en France en 1904, où il commençait à coopérer avec des savants comme Jules Janssen, Henri Poincaré, Guillaume Bigourdan, et il essayait de se faire valoir dans l'astronomie ou dans la science. Il faisait beaucoup d'expéditions, beaucoup de missions scientifiques, en fait vers le début de la guerre, en 1913. C'était aussi des missions plutôt diplomatiques. Et puis quand la première guerre mondiale a commencé, il commençait à faire la résistance tchécoslovaque, où il était à la tête de la résistance tchécoslovaque avec Beneš, Masaryk et puis Štefánik. Štefánik était surtout en charge de la création de l'armée tchécoslovaque qui est né en France, en Italie et en Russie. Et Štefánik, il voyageait beaucoup afin d'assurer sa création, de recruter des volontaires, etc. Puis, il s'engageait aussi en tant que diplomate.
Qu'est-ce qui explique, en fait, le départ de Slovaquie, de Štefánik?
Il a quitté, en fait, la Slovaquie, le royaume d'Hongrie, à l'âge de 19 ans. Et il est parti faire des études à Prague, donc c'est, on peut dire, le premier départ. Et puis, en fait, quand il a fait ses études d'astronomie, il voulait trouver un emploi dans ce domaine.
Et ce qui n'était pas possible à Prague à cette époque-là.
Ce qui n'était pas possible à Prague, où il voulait pas. À la fois, c'était très difficile, et à la fois, il voyait Paris comme un centre scientifique. Il appréciait beaucoup Camille Flammarion, avec qui il était puis en contact, donc aussi Jules Janssen. Je crois que c'était le renommé de Paris qui l'a attiré.
Donc un personnage plutôt francophile.
Oui.
Assez tôt. Qu'est-ce qui va expliquer son engagement dans la cause tchécoslovaque qui n'existe pas encore à la fin du 19e siècle, mais qui va apparaître pendant la Première Guerre mondiale?
Donc Stefanik vient d'une famille de patriotes slovaques. Son père était un patriote fervent. Et donc ça a influencé aussi Stefanik, même si son identité varie. Il a obtenu la nationalité française en 1912.
Est-ce qu'avant la guerre, c'était un personnage connu dans les provinces slovaques et dans les pays tchèques? Ou est-ce qu'il était simplement connu en France où il s'était vraiment intégré dans le réseau social de l'élite parisienne à cette époque-là?
Non, il n'était pas connu en Slovaquie. Il était un peu connu à Prague. Mais c'était surtout parce qu'il a étudié à Prague et il était en contact avec les élites pragoises. Oui, notamment, il était connu dans quelques milieux haut placés en France. Il était en contact avec le sénateur Émile Chotin. Puis, grâce à lui, il avait l'accès au président de la Chambre des députés. Ou au président du Sénat, etc. Donc, mais il n'était pas très, très connu. Il était que connu par des cercles d'élite avec lesquels il était en contact.
Donc, son engagement dans la cause tchécoslovaque se fait pendant la Première Guerre mondiale. Comment cela se passe à ce moment-là pour lui qui a fait une carrière de scientifique et puis qui sera connu comme un personnage important de l'armée de libération tchécoslovaque?
Donc, il est mobilisé dans l'infanterie. Mais grâce à ses contacts...
Dans l'infanterie de quel pays?
De l'infanterie française.
D'accord, donc il entre dans l'armée française, oui. Et il participe au conflit aux côtés des Français.
Oui, oui, c'est ça au début. C'est surtout en 1915 qu'il lutte vraiment aux côtés des Français sur le front occidental, donc contre les Allemands. Puis il s'est fait transférer en Serbie afin de lutter contre l'Autriche-Hongrie. Et puis, en fait, c'était plutôt la période où il était tout seul. Et à la fin de 1915, on peut dire qu'il arrête la carrière militaire, proprement dit. Et il s'engage dans la résistance tchécoslovaque. Il continue à monter en grade. Il est devenu même le général. Mais en fait, c'était des promotions pour des raisons diplomatiques, car quand il allait négocier en Italie, un lieutenant-colonel ou un général a beaucoup plus de respect qu'un capitaine.
Donc il participe directement aux négociations, avant la fin de la Première Guerre mondiale, aux négociations qui vont mener à la création de la Tchécoslovaquie.
L'Italie ne voulait pas que l'armée tchécoslovaque se crée dans ce pays. Et au départ, Stefanik voulait transformer les prisonniers tchécoslovaques d'Italie en France. Mais au fur et à mesure, il a commencé des négociations. Et finalement, l'armée tchécoslovaque a été créée en Italie. Ce fait, on peut considérer comme l'Italie reconnaît la Tchécoslovaquie.
Comme une reconnaissance officielle de l'État italien de l'existence de la Tchécoslovaquie. Oui. Qui arrive à quel moment précisément?
C'était printemps 1918.
La vie de Stefanik se termine à l'issue de la Première Guerre mondiale de manière tragique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce moment qui est important, qui est central dans la vie posthume de Stefanik comme héros national pour les Tchécoslovaques?
Stefanik voulait rentrer d'Italie en Tchécoslovaquie. Il voulait y entrer en avion. Donc, il est parti le 4 mai 1919 de Campo Formido. Et il voulait atterrir à Bratislava. Mais finalement, l'avion s'est écrasé près de Bratislava. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de théories de complot autour de la mort de Stefanik, mais moi je pense que c'était un accident causé par le vent.
la version officielle privilégie la thèse de l'accident. Stéphanie devient vraiment connue et devient un personnage important après sa mort. Comment est-ce que vous expliquez cette récupération de Stéphanie dans l'après-guerre?
Oui, c'est... à mon avis, il y a plusieurs choses qui sont très importantes dans la popularité de Stefanik. En fait, tout d'abord, c'est que dans l'histoire slovaque, il n'y a pas beaucoup de héros qui avaient du succès. C'est Stefanik qui a mis fin à l'asservissement de la nation slovaque dans le royaume d'Hongrie. Donc, c'est à mon avis un facteur. L'autre facteur, c'est qu'il est mort tragiquement, et il avait 39 ans. À mon avis, cette mort est perçue comme quelque chose de romantique. Donc ça contribue, à mon avis, aussi à sa popularité.
Puis, principalement en Slovaquie ou dans toute la Nouvelle République?
Moi, je crois que dans la toute Nouvelle République, parce que c'est un fait qui est très touchant dans la vie de Stefanik, parce qu'il est mort quand il était au sommet de sa carrière, si on peut le dire ainsi.
C'était donc l'historien slovaque Michal Kšiňan, interrogé par notre collègue Paul Bauer. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en audio et en texte sur www.radio.cz/fr.